vous entretenir des moyens diagnostiques simples du syndrome d'apnée de sommeil. Alors pourquoi la question? Parce qu'en fait, 80% des SAOS ne sont ni diagnostiqués ni traités, sachant que la maladie elle est responsable de 3 fois plus, elle multiplie par 3 le risque de survenir d'un accident vasculaire cérébral, multiplie par 3 le survenir d'un accident de la route, et par 3 le risque d'avoir une hypertension artérielle. Donc d'où l'intérêt de vraiment faire tout ce qu'il faut pour simplifier l'outil diagnostique, pour diagnostiquer plus de malades dans un laps de temps très court. Mais alors, quel type d'outil diagnostique? Plus on va simplifier les outils diagnostiques, puis il faudra qu'on passe du temps dans la consultation. Parce que c'est à partir de la consultation qu'on va pouvoir screener et voir les patients qui ont un terrain à risque ou des patients qui ont une somnolence très importante et la rattacher au syndrome d'apnée de sommeil ou d'autres pathologies de sommeil. Donc rechercher des signes qui sont évocateurs d'une autre pathologie de sommeil, évaluer la priorité à l'examen, à la réalisation et à l'accès à l'outil diagnostique, et stratifier les outils diagnostiques. Alors le fil conducteur, je pense que pour y aller, c'est la somnolence, parce que c'est ça qui nous pose le problème dans notre consultation. On a tendance, nous pneumologues ou nos médecins qui s'occupent du sommeil, de mettre toute somnolence à partir du moment où le malade ronfle, lui mettre la somnolence sur le syndrome de sommeil, ce qui n'est pas vrai. Donc, quels sont ces moyens diagnostiques? Ils sont plusieurs. Les complexes, la polysomnographie, les TIL, les TME, ça sort de ce diapo. Les autres échelles, les autres moyens diagnostiques simplifiés sont les échelles et questionnaires, les agendas de sommeil, l'actimétrie, l'oscillaire, les polygraphes de type 4 et les polygraphes de type 3. Je ne vous ai pas vous embêter avec la définition, mais simplement vous rappeler que les critères A, c'est la somnolence diurne, excessive, non expliquée par d'autres facteurs. Il faudra vraiment s'attacher pendant la consultation, à vouloir démêler de ce qui appartient au syndrome d'apnée de sommeil éventuel et ce qui appartient à d'autres pathologies. Alors la somnolence, c'est un chapitre qui est très vaste, mais grosso modo, on peut le diviser en 2 grosses catégories. Une somnolence franchement pathologique et une somnolence qui est, je dirais, induite par des facteurs de comportement, par un comportement. L'insuffisance de sommeil, l'alcool, les médicaments, les décalages circadiens. Bon, pour là, vous avez des outils diagnostiques simples pour pouvoir les gérer et les diagnostiquer, tels que les agendas de sommeil, l'actimétrie et autres. Et puis, vous avez la somnolence pathologique que vous pouvez diviser en 2 grosses catégories. C'est soit le cerveau qui produit trop de sommeil, c'est le type de narcolepsie ou l'hypersomnie idiopathique, et là vous avez les TIL et TME qui peuvent vous aider pour porter le diagnostic, soit que c'est un sommeil fragmenté, soit par des éveils répétés parce que le malade a par exemple des douleurs, comme dans le cas d'une polyarthrite rhumatoïde, le malade il est somnolent le matin parce qu'il a mal dormi, parce qu'il avait mal, ou alors c'est les micro-éveils qui vont vous assurer ce sommeil, et c'est ce qu'on trouve dans les MPJ, c'est ce qu'on trouve dans les troubles respiratoires du sommeil. Et là, vous avez toute la panoplie des examens qu'on peut faire dans l'exploration du sommeil et du renflement. Alors, première étape, s'asseoir, la somnolence avec un signe ou 2 signes, ne permet pas généralement de vraiment aboutir à avoir le diagnostic de syndrome de sommeil. Donc il faut faire une bonne évaluation clinique. Et la bonne évaluation clinique commence par ce que disent les recommandations, les questionnaires. Les questionnaires, ils sont recommandés. Alors il y a 2 types de questionnaires. Il y a les questionnaires qui vont vous mesurer, quantifier la somnolence. Et il y a des questionnaires qui sont beaucoup plus spécifiquement respiratoires et qu'on va voir. Donc, les questionnaires, vous les connaissez, les échelles. Vous avez l'échelle de Poirt, vous avez l'échelle de fatigue et la dépression. Et vous avez des scores que vous allez remplir. Et à partir de score, vous savez si votre malade est fatigué, s'il est déprimé ou s'est présente une somnolence. Et donc, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en fait, l'impact de mauvais sommeil dans la nuit vous donne ces échelles. Mais quand vous allez... Mais par contre, vous avez des malades qui... vont à une bonne foi, vous dites « je ne suis pas somnolent ». C'est pourquoi dans la consultation, il faudra essayer d'avoir le conjoint dans la consultation. Et des fois, il faudra aussi pousser l'interrogatoire, c'est-à-dire que le malade qui vous dit « je ne suis pas somnolent », peut-être qu'il concentre mal, peut-être qu'il est mal attentionné, peut-être qu'il a une vigilance qui est un peu diminuée, un enfant qui est hyperactif. Donc, il faudra pousser un peu et voir un petit peu s'il présente ces signes. Et puis, vous avez cette étude qui vous dit, qui date de 2012, qui vous dit, en fait, les malades qui sont, un certain nombre de malades traités par CPAP se rendent compte qu'ils étaient somnolents, mais ne s'en rendaient pas compte. Donc, c'est pour vous dire que le malade, quand il vit, je ne suis pas somnolent, c'est en fait, il vous le dit en toute bonne foi. Et puis, vous avez nous, médecins, qui allons essayer de mettre, chaque fois que le malade nous dit, je suis somnolent, et à partir du moment où il ronfle, on va le mettre sur le compte du syndrome d'apnée de sommeil, sachant qu'il y a des pathologies telles que le diabète, la dépression, l'âge et l'obésité, ces pathologies-là qui viennent en premier dans les causes qui vont vous donner la somnolence. C'est-à-dire que le syndrome d'apnée de sommeil vient en cinquième position comme précurseur du syndrome de somnolence. Donc, et surtout, nos malades qui sont généralement les SAOS sont aussi déprimés, obèses et donc âgés. Il faudra donc savoir démêler et mettre la somnolence sur la vraie pathologie. Et vous avez d'autres questionnaires qui sont là, des questionnaires, je dirais, à visée respiratoire, qui vont beaucoup plus spécifiques, qui vont explorer un petit peu le syndrome d'apnée de sommeil. Vous avez le Berlin qu'on utilise tous, qui va explorer le renflement, la notion d'arrêt respiratoire, la notion de fatigue, la notion de somnolence, l'IMC et la notion d'hypertension artérielle. Et puis vous avez le Stompbank qui utilise les anglo-saxons, qui reprend pratiquement les mêmes choses, sauf qu'il rajoute la circonférence du cou, le sexe masculin et autres. Et l'intérêt, cette étude, son intérêt, c'est de vous, entre le Berlin Test et le Stompbank, je ne parle pas du SASDQ, entre le Berlin Test et le Stompbank, chez les malades qui sont plus de 15 événements respiratoires par heure, vous avez le Berlin qui est moins sensible que le Stompbank, c'est 75 versus 98%, mais le Berlin, il est plus spécifique que le Stompbank, 35 versus 10%. Ce qui veut dire que nous avons dans notre pratique intérêt à peut-être combiner les deux tests pour pouvoir avoir une idée fine sur la somnolence du patient. Et puis vous avez ce papier qui date de 2013 qui nous dit en fait, quand vous associez le Berlin questionnaire avec l'échelle de somnolence des Puertes, vous avez beaucoup plus de chances de détecter les syndromes d'apnée de sommeil qui apparemment ont un faible degré d'index d'apnée hypopnée. Donc, la clinique, les questionnaires, très intéressant et très important de les combiner. Et puis, vous avez l'axymétrie. L'axymétrie, pourquoi vous allez la proposer chez un malade qui vient vous voir, vous, pneumologue? La proposer parce que quand vous avez discuté avec votre patient, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, la somnolence, elle ne vous parle pas tellement. Ce n'est vraiment pas le somnolence chez le patient que vous trouvez, vous, dans le syndrome d'apnée de sommeil et que vous suspectez peut-être un décalage de phase, que vous suspectez peut-être une insomnie. Et dans ce cas, vous avez, quand vous lui collez son bracelet et son oxymètre pendant une semaine à trois semaines, vous pouvez avoir un petit peu le cycle de sommeil de ce patient de façon objective, parce qu'il y a l'autre paramètre qui est les agendas de sommeil, mais de façon objective vous avez le tracé de veille et de sommeil du patient. Alors il y a beaucoup d'articles qui sortent sur l'axigraphie, et grosso modo ces articles, c'est le sujet jeune, chez l'adolescent, chez le vieux, grosso modo il arrive à la même conclusion, l'axymètre est très important et très sensible quand il mesure le temps de sommeil total. C'est-à-dire, quand vous le comparez à la polysomnographie, il arrive pratiquement au même temps de sommeil total, sauf qu'il est moins sensible. C'est-à-dire que quand le patient bouge à cause d'une parasomnie ou à cause d'un mouvement périodique de jambe, il a tendance à le calculer comme un éveil. Or, c'est pas vrai. Donc, en fait, il est sensible, mais il est sensible, mais moins spécifique. Et cette étude, une méta-analyse qui date de 2011, qui a pris 15 études dont 12 versus polysomnographie, 3 versus agenda de sommeil, eh ben, la méta-analyse suggère que l'axigraphie permet d'estimer le temps total de sommeil, le pourcentage des sommeils et le réveil après endormissement. Eh ben, c'est pour cette raison que le comité de l'American Academy of Sleep Medicine nous dit, en fait, quand vous ne pouvez pas faire une polysomnographie et que vous avez un oxymètre et que vous avez un bon appareil pour les événements respiratoires, pour mesurer les événements respiratoires, vous pouvez non seulement poser le diagnostic de syndrome d'apnée de sommeil, mais d'approcher la sévérité de syndrome d'apnée de sommeil et de dire est-ce qu'il est sévère ou pas. Donc, savoir combiner aussi les outils de diagnostic. Et puis l'agenda de sommeil, je vous disais tout à l'heure, c'est une diapo qui vient de nos amis de Reims, l'agenda de sommeil qui va vous permettre, c'est une façon subjective de mesurer un petit peu, de voir comment le malade ressent cette période de veille et de sommeil, de voir les accès de somnolence par exemple, de vous remplir s'il prend beaucoup de café, de thé et autres. Et donc vous avez une idée un petit peu plus ou moins précise sur son état de veille et de sommeil. Mais l'intérêt aussi, c'est d'associer tous ces paramètres-là. Et pourquoi vous allez perdre tout ce temps pour, je dirais, associer tous ces paramètres? Parce que vous allez vouloir simplifier votre diagnostic et aller vers là, ici le malade est vraiment SAOS sévère, allez l'explorer rapidement et désengorger en quelque sorte vos listes d'attente de polysomnographie ou autre, parce qu'il y a des malades qui vous avez programmé pour polygraphie alors qu'ils ont une narcolepsie. Donc insistez sur cette étape qui est très importante, parce que c'est celle-là qui va vous permettre d'identifier les malades à risque et d'augmenter la fiabilité prédictive partie d'outils diagnostiques, et puis de stratifier les outils diagnostiques. Alors, quels sont ces outils diagnostiques? Vous avez les recommandations là aussi qui nous disent tout ce qui est polysomnographie type 1, c'est laboratoire du sommeil, donc ça ne rentre pas dans le sujet du jour. Le type 4, c'est un signal respiratoire ou deux signaux respiratoires. Le type 3, c'est quatre signaux respiratoires. Le type 2, c'est une polysomnographie en ambulatoire. Certes, elle se fait en ambulatoire, mais c'est un examen qui n'est pas simple. Donc, on l'oublie, il ne rentre pas dans cette catégorie. Donc, on aura à parler des types 4 et type 3. Le type 4, c'est un oxymètre. La recommandation nous donne certaines normes à respecter l'oxymètre pour pouvoir suspecter et diagnostiquer les syndromes d'apnée de sommeil. Bon, l'index de désaturation, il doit dépasser les 5 par heure. Le temps passé inférieur à 90%, il va vous le donner. Et puis, l'allure de la courbe d'oxymétrie qui est très importante. Parce que quand vous comparez ces trois groupes, les deux premières, à l'évidence, c'est un syndrome d'apnée de sommeil, la troisième, ce n'est pas un, c'est peut-être l'hypoventilation alvéolaire. En tout cas, vous aurez à explorer et à faire des explorations complémentaires. Et puis ce papier qui date de 2015, qui nous dit que les auteurs ont validé le fait qu'une oxymétrie peut poser le diagnostic d'un syndrome d'apnée de sommeil modéré à sévère. Ce petit clin d'œil à notre ami Jean-Louis Pépin qui est avec nous, qui nous dit dans un papier avec son équipe qu'en fait l'oxymètre peut être utilisé comme première étape de diagnostic du syndrome d'apnée de sommeil. Le faire, et quand c'est positif, aller vers des examens plus appropriés. Et puis nous, dans notre au Maroc, nous avons conduit une étude sur pratiquement 197 patients marocains avec le concours des ateliers d'Arcachon, l'APP et la Tadir d'Angers. Et donc, à partir de ça, on a pu diagnostiquer et sur les 497% de patients. C'est-à-dire que le Berlin positif, une oxymétrie. Quand l'oxymétrie avait un index de désaturation supérieur à 15, on considérait que c'était un malade qui devait être traité par CPAP, et on le traitait par CPAP dans le protocole. Et donc, on a vu qu'on pouvait traiter pratiquement 69% des patients rien qu'avec cette méthode, que 11% des patients n'étaient pas des syndromes d'apnée de sommeil sévère, n'étaient pas des syndromes d'apnée de sommeil, et que 21% devaient justifier d'exploration complémentaire. Ce qui veut dire qu'avec un seul questionnaire de Berlin, avec une oxymétrie, vous pouvez démêler un petit peu et aller au vif du sujet et traiter éventuellement si les recommandations, mais les recommandations ne le permettent pas. Alors, l'oxymétrie était suffisante. Les données actuelles ne permettent donc pas de recommander l'usage exclusif de l'oxymétrie dans le diagnostic du SAS. Alors, maintenant, on a fait le type 4, c'est l'oxymétrie. L'apnée allique, si en fait c'est l'oxymétrie plus une cannule d'oxygène. Je vais vous en parler un peu plus loin. Et puis, vous avez le polygraphe. Eh bien, le polygraphe, vous avez 4 paramètres. Vous avez la cannule qui va mesurer les débits, les efforts respiratoires par les ceintures, la saturation d'oxygène et la fréquence cardiaque. Eh bien, quand on veut voir l'oxymètre, si on utilise le simple signal de l'oxymètre, quand on voit ça, on se dit « je suis devant un syndrome d'apnée de sommeil ». Quand je mets mon appli Yannick et que je mesure les débits, je me rends compte que le malade fait des apnées, que la courbe de saturation, donc a priori, je suis dans un syndrome d'apnée de sommeil. Si je rajoute le renflement sur le canule qui existe déjà sur l'apnée allique, je suis devant un syndrome d'apnée de sommeil obstructif puisque j'ai des efforts respiratoires. Pourquoi les recommandations demandent aussi de rajouter les ceintures thoraciques et abdominales? Parce que ce type de malade, par exemple, faisait quand même un syndrome mixte. et que a priori on peut pas parler de ça, même si le traitement est le même, on est quand même obligé de le connaître, de le savoir pour pouvoir peut-être le surveiller de façon plus étroite. C'est pourquoi une étude de 2014 qui perche vers la même chose. Quand vous avez une haute probabilité de syndrome d'apnée de sommeil, aller faire une polygraphie simple suffira. Et cet autre travail de 2011 qui nous dit en fait, plus le malade est sévère, plus votre polysomnographie et votre polygraphie vont être concordantes vis-à-vis de l'index d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire vis-à-vis de la sévérité du syndrome d'apnée de sommeil. C'est-à-dire que plus le malade est sévère, plus le temps passé au lit va être pratiquement égal au temps total du sommeil. Et donc à ce moment-là, vous avez peu de chances de sous-estimer l'index d'apnée-hypopnée. Et puis avec tout ça, vous avez encore en Europe 4 pays qui n'admettent que la polysomnographie comme examen diagnostique, sauf si ça a changé depuis 2012. Et puis les enregistrements de type 4 ne sont admis que dans 7 pays. Et c'est pourquoi les recommandations nous disent actuellement, quand vous avez une grosse probabilité de syndrome d'apnée de sommeil, vous pouvez faire une polygraphie ventilatoire avec les 4 paramètres qu'on a cités pour pouvoir poser le diagnostic de syndrome d'apnée de sommeil et de sévérité de ce syndrome. Donc on est arrivé à compléter notre plaque, donc les examens de diagnostic. Et là, vous avez les autres diagnostics qui sont la polysomnographie type 3, la polysomnographie type 1, la polygraphie ou l'enregistrement type 2, c'est la polysomnographie en ambulatoire, on n'en parle pas parce que c'est pas simple, c'est pas un outil simple. La polysomnographie type 1, c'est dans le laboratoire. L'éthyl-DMTME sont dans le laboratoire. L'osler aussi, il est dans le laboratoire. Mais l'osler, c'est 40 minutes, 4 fois ou 5 fois par jour. Il y a l'osler simplifié que vous pouvez faire entre 14 et 16 heures, c'est un examen simple et qui vous permet quand même de jauger, d'évaluer la sévérité de la somnolence de votre patient quand le patient vous dit que je ne suis pas somnolent. Et je pense que je peux l'introduire comme test simple. Alors, l'osler, c'est une diapo de notre ami François Villot qui a beaucoup travaillé sur l'osler et qui nous dit en fait, le malade il est sur un fauteuil, il est en train d'appuyer sur un connecteur quand il voit une lumière, la lumière elle va s'afficher une seconde sur 3 secondes. Et quand il oublie 7 fois d'appuyer sur cette lumière, c'est qu'il a raté pratiquement une époque, c'est-à-dire que 7 fois 3 secondes ça fait 21 secondes, c'est une époque EEG des anglo-saxons, et donc a priori le malade s'est endormi, donc on peut arrêter les tests et montrer au malade. Et il nous montrait des diapos et des caméras où les patients mettaient le doigt ailleurs, carrément tombaient la tête, et quand ils sortaient, ils disaient « je ne suis pas somnolent ». Et quand on lui montrait la caméra, le malade se rendait compte qu'en fait il était somnolent, il ne s'en rendait pas compte. Donc la somnolence ressentie déclarée, c'est pas la peine de faire l'osler. La somnolence non ressentie, test objectif négatif, test d'osler, va vous permettre d'objectiver la somnolence, aider à la décision thérapeutique. Quand vous savez que votre malade y fait de la somnolence, va vous le traiter et aide à la prise de conscience du patient et la motivation au traitement. Alors au total et en conclusion, je dirais, le screening se fait à partir de la consultation. Éliminer les autres pathologies du sommeil qui se ramènent avec une somnolence. L'oxymétrie garde une place de choix pour décider d'urgence de prise en charge. Je pense que vraiment l'oxymétrie, c'est quelque chose que vous pourriez facilement placer. C'est-à-dire que même chez le médecin généraliste, peut-être mettre une oxymétrie, voir comment les choses évoluent. L'oxymétrie doit être une étape assez facile à mettre en œuvre parce que la démarche est simple. Vous, à la limite, vous placez un oxymètre et vous voyez, ça vous permet de même voir si vous allez prendre en charge ce patient rapidement ou pas. L'osler garde une place de choix pour objectiver la somnolence. Seul le polygraphe type 3 est recommandé pour le diagnostic du SAS. Je vous remercie.